Boker Tov, les coulames. On revient donc pour une étude absolument incroyable ce matin. C'est la Iloula ce matin de Moshe Rabbeinu. Donc, qui dit Iloula de Moshe Rabbeinu dit qu'on va parler un petit peu du personnage. Et effectivement, quel rapport a priori entre Moshe Rabbeinu et Chag HaPurim? Eh bien, les amis, sans plus attendre, on est parti. Katouf Besefer HaZohar, puisqu'on est dans, quand même dans l'histoire de la Kabbalah, donc on ne va pas dire qu'on est absolument hors sujet. Katouf Besefer HaZohar, dans la Reya Me'emna, une phrase qui a l'air anodine et pourtant qui est énorme. Katouf Sham, Talmit Racham, Heyom HaShabbat. Que le Talmit Racham, il est Nikra Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire que le Talmid Chacham, il est Shabbat? Eh bien, Shabbat, c'est un moyen de nous connecter à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, le Talmid Chacham, lui aussi, c'est derrière les travers la Kadosh Baruch Hu. C'est aussi un moyen de nous attacher à Dieu. Ceci étant, vous le savez, il y a deux sortes de Shabbat. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il y a Shabbat de Shabbat. Et puis, il y a le Shabbat qui s'appelle Shabbat, mais en fait, qui est Yom Tov. Puisque vous le savez, par rapport à la fête de Pessah, on va nous dire « Mimachorat à Shabbat ». Par rapport au Korban à Omer, où on doit amener l'Omer au Beth Amikdash, eh bien, on va nous dire « Mimachorat à Shabbat ». Et nos sages vont expliquer que Shabbat, ça veut dire Yom Tov. C'est le premier jour de Pessah. En d'autres termes, nous avons deux Shabbatot. Nous avons le Shabbat qui est Shabbat et nous avons le Shabbat qui est Yom Tov. Eh bien, quelle est la différence fondamentale entre Shabbat et Yom Tov? Eh bien, la différence, c'est que Shabbat, ça ne dépend pas de toi. Tous les sept jours, c'est Shabbat. Kacha. Alors que Yom Tov, eh bien, dépend de toi. Dépend de toi, c'est-à-dire dépend de lorsque le peuple juif va décider quand c'est Rosh Chodesh. Et vu que notre prérogative est de décider quand c'est Rosh Chodesh et quand ça ne l'est pas, eh bien, cela veut tout simplement dire que Yom Tov, l'homme, a par ses actions un moyen d'influencer le bon déroulement du Yom Tov. Alors que le Shabbat, l'homme est complètement indépendant de nos actions, l'Akdusha du Shabbat. Eh bien, de la même façon, nous avons des tzadikim qui sont des tzadikim pas par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils sont à l'intérieur, et d'autres qui sont des tzadikim par ce qu'ils font. Je m'explique. Les tzadikim qui sont tzadikim par ce qu'ils sont à l'intérieur, eh bien, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Les avot ont été choisis a priori sans qu'on sache quoi que ce soit sur eux. Rappelez-vous de Vaïdaber Hashem El Avram, Lech Lecha. Qu'est-ce qu'on sait de Avram à ce moment-là? Rien du tout. Alors les Midrashim vont nous raconter plein de choses, mais d'après la Torah, on ne sait rien sur Avram. On ne sait pas qu'il a fait de grandes choses. En d'autres termes, eh bien, nous sommes face à une réalité où Avram, Yitzhak et Yaakov ont été choisis parce qu'ils sont les descendants de Ever, qui sont le peuple hébraïque, qui sont l'identité que Dieu a choisie. Comme on dit tous les matins dans la Tefila, Asher Bachar Banu. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Pas grand-chose. Donc ça, les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Kdushat Shabbat. Et puis il y a Kdushat Amoadim, Shabbat en sens Yom Tov. Et vous aurez remarqué qu'il y a quatre qui sont cinq Yom Tov de la Torah. Il y a Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Yom HaKippurim, on peut les mettre un petit peu ensemble, Ayamim Anorei. Eh bien, de la même façon, nous avons quatre tzadikim, qui sont cinq, mais qui sont quatre, qui sont les tzadikim de Yom Tov. C'est-à-dire, ils sont devenus tzadikim de par leurs actions. Qui est le tzadik de Pessah? Eh bien, les amis, le tzadik de Pessah, c'est très simple, c'est Yosef HaTzadik. Eh oui, comment on sait que c'est Yosef HaTzadik, le tzadik de Pessah? Puisqu'il est marqué, « Vayikach Moshe et Atzmot Yosef Imo, כי השבעה השביע את בני ישראל, למור פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. En d'autres termes, eh bien, Yosef a demandé que la sortie d'Égypte ne se passe pas sans lui. Yosef, qui est la force de Am Israël, et donc il est tout à fait naturel que le jour de la Géoula du Am Israël, à Pessah, eh bien, c'est Yosef HaTzadik qui est la personnalité première. Ensuite, nous avons une autre fête qui s'appelle Shavuot. Bon, Shavuot, c'est le jour où on reçoit la parole de Dieu par l'intermédiaire de Moshe. Évidemment, la personnalité de Moshe est au centre de Shavuot. Et puis, il y a la fête de Sukkot. Et Sukkot, ce sont les Anané Kavod. Les Anané Kavod, les nuées qui entouraient le peuple juif, et notre Sukka nous rappelle cela. Eh bien, les Anané Kavod sont directement liés à Aaron à Cohen, à tel point que lorsque Aaron disparaîtra, eh bien, les Anané Kavod disparaîtront avec lui. Et puis enfin, il y a le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de Amlachat Hashem, le jour où on va couronner Dieu, eh bien, c'est David à Meller, et le jour de Yom HaKippurim, le jour où on rentre et on est complètement à l'intérieur du Beth Amikdash, directement lié à Shlomo qui a construit le Beth Amikdash. Mais on pourrait réunir David ou Shlomo en réunissant les Yamim à Noreï. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais en fait, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de passer en revue ce qu'on appelle les Ushpizin, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Aaron, David et Shlomo, si on met Shlomo dans le lot. En d'autres termes, nous avons donc les Avot pour Shabbat et quatre Tzadikim pour les quatre fêtes qui sont les fêtes des Oraïta. Et vous allez me dire, quel rapport avec Purim ? Eh bien, le rapport, il est qu'il n'y a pas que des fêtes des Oraïta. Il y a aussi des fêtes des Rabbanan. Et dans ces fêtes des Rabbanan, nous avons quatre fêtes des Rabbanan qui deviendront cinq Be'ezrat Hashem bientôt, mais pour l'instant quatre. La première, eh bien, c'est la fête de Purim. Ensuite, nous avons la fête de Hanouka. Ensuite, nous avons la fête de Yom HaAtzmaout. Et ensuite, nous avons la fête de Yom Yerushalayim. Il y aura une cinquième fête des Rabbanan lorsque nous reconstruirons le Beth Amikdash et nous ferons l'inauguration du Beth Amikdash. Eh bien, là aussi, lorsque nous ferons l'inauguration du Beth Amikdash, ce sera évidemment tourné vers Shlomo. Le Yom Yerushalayim, qui est le jour où on est revenu dans la ville de la royauté, eh bien, c'est évidemment par rapport à David Ameler. La fête de Yom HaAtzmaout, on a dit, l'indépendance du Am Israël, Zé Yosef HaTzadik. Évidemment que Hanouka, une fête à 100% dirigée, faite par les Kohanim, eh bien, c'est la fête de Aaron à Kohen. Et donc, eh bien, il ne nous reste plus que la fête de Purim, qui est directement liée à Moshe Rabbeinu. Alors, est-ce que c'est juste par élimination ? Ou est-ce qu'il y a, dans la fête de Purim, un lien très profond avec Moshe Rabbeinu, qui est le héros du jour aujourd'hui ? Et Tu Bishvat ? Eh bien, Tu Bishvat, tu as raison, ça va devenir une fête. Et moi, tu me demandes, je pense que, et c'est voilà, j'y pense profondément, je pense que cette cinquième fête dont j'ai parlé de l'inauguration du Beth Amikdash se fera à Tu Bishvat. Et donc, Tu Bishvat deviendra à ce moment-là une fête officielle. Pour l'instant, tu le sais, ce n'est pas encore une fête officielle. Bekitsour, donc Moshe Rabbeinu est directement lié à la fête de Purim. Efo, mi, mou, ma, comment ? Mais où est donc Ornicar ? Eh bien, les amis, allons-y. Moshe, Purim, Purim, Moshe, ma, si, pour. Comme vous le savez, Moshe est né aujourd'hui, c'est-à-dire le 7 Adar. Donc, bah, tout simplement, cela nous laisse rêveurs. Mais nous savons que donc, eh bien, la Brit Mila de Moshe, c'est donc à Purim. S'il est né le 7 Adar, 8 jours plus tard, c'est la Brit Mila de Moshe. Donc Moshe a eu sa Brit Mila à Purim. Vous allez me dire, Moshe est né circoncis. Certes, mais même quelqu'un qui naît circoncis, il doit avoir ce qu'on appelle Atafat Dam. C'est-à-dire, on doit faire sortir une goutte de sang quand même. Donc, en d'autres termes, il y aura quand même une Brit Mila pour Moshe. Et ça se passe quand ? Ça se passe à Purim. Mais quoi, c'est tout le lien, c'est juste la Brit Mila de Moshe, les amis. Dans la Megillat Esther, on nous dit un verset très particulier. Vekibel haYehudim et Asher echilam laasot. Et la Gemara dans le traité de Megillah pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire Vekibel haYehudim? Normalement, on aurait dû dire Vekibelou haYehudim. On a été à l'Ulpan, c'est du pluriel. Donc pourquoi Vekibel haYehudim? Dit la Gemara, Yesh Echad Shekibel, et Mise, c'est Moshe. Qui est le Echad qui a reçu la Torah? C'est Moshe. En d'autres termes, à l'époque de Pourim, ce que Moshe a reçu au Sinaï tout seul, Am Israël a reçu en tant que nation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, vous connaissez ce concept que Adar kibloua bimei Achashverosh, que à l'époque de Pourim, on a accepté la Torah. De quoi parle-t-on? J'aimerais vous rappeler une chose. Pourim est le premier moment de l'histoire juive où on peut décider de ne pas être juif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, lorsqu'on est sorti d'Égypte, à partir du moment où on sort d'Égypte et jusqu'à Pourim, notre vie de juif et notre identité de juif nous est imposée par les événements. Lorsque tu sors d'Égypte, tu peux essayer de t'assimiler, mais ça ne marchera pas. Tu sais pourquoi ça ne marchera pas? Eh bien parce que lorsque tu es un membre du peuple d'Israël qui rentre en Eretz Kenan avec Yehoshua, eh bien, si tu vas aller chez les Cananéens en disant « Moi, je ne suis pas un juif, je suis un Cananéen », tout le monde va te jeter dehors. Parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas religieux que tu n'es pas assimilé au peuple d'Israël. Et ça va se passer pendant toute la période de Yehoshua, de Shoftim, de Shmuel et de Melachim. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, à l'époque, une royauté d'Israël, eh bien, les autres nations ne s'arrête pas à savoir à quel dieu tu pries. Parce que je vous rappelle que dans toutes les nations, il y a un panthéon énorme. Donc, un dieu de plus, un dieu de moins, c'est pas la question. Mais à quel peuple tu te réfères? Vous comprenez bien qu'un juif, à l'époque de, je sais pas moi, du roi David, qui va en houl, eh bien, il peut pas se faire passer pour un houlnik. Tout le monde va le reconsidérer comme juif. Et puis tout d'un coup, voilà la fête de Pourim. À l'époque de Pourim, nous sommes donc juste après le départ en exil suite à la destruction du premier Beth Amikdash Nabucodonosor, et nous arrivons à Babylone. Pendant les premières années de Babylone, pour être exact, les 52 premières années de Babylone, eh bien, là encore, on ne peut pas devenir babylonien. Pourquoi? Mais parce qu'on est justement considéré comme étant les juifs d'exil, le parasite. Et puis tout d'un coup, le gouvernement change. La Babylone est tombée aux mains de la Perse. Ce sont maintenant les Perses qui gèrent. Et les Perses commencent à être très sympas avec nous. Et nous donnent l'émancipation. Koresh va même nous permettre de revenir en Israël, de reconstruire le Beth Amikdash. Il n'y a pas de loi antisémite dans le royaume perse. On est très bien. Et pour la première fois, ceux qui décident de ne pas rentrer en Israël peuvent tout à fait se faire passer pour perse. À tel point qu'on va commencer à faire ce qu'on n'avait pas fait depuis la sortie d'Égypte, depuis même l'Égypte. On va commencer à changer nos noms. Ça n'était jamais arrivé. Prenez tous les personnages du Tanakh, même les Réchaïm du Tanakh de chez nous, même les gens qui dans le Tanakh sont des membres du peuple juif mais qui ne sont pas top top, ils ont tous des noms qui montrent bien leur appartenance nationale. Et tout d'un coup, nous arrivons en Perse avec des personnages qui s'appellent מרדכי, אסתר, מרדכי, מרדוך, לדיו פרינסיפל דה פרס דה בבילוניאן, אסתר, איסטאר, אסטרטה, לדאס דה לנוי, דה זטואל, דה בוטה, דה סקסואליטה. Changer ton nom, ça veut dire énormément sur ton appartenance identitaire. Et donc, à l'époque de Pourim, tu choisis, est-ce que tu deviens officiellement un Perse ou alors tu restes fidèle à ton identité. Et c'est pour ça qu'on te dit à Adar Kibloua Bimea Hachvéroch, la Torah que Moshe nous a donnée, eh bien, ce n'est qu'à l'époque de Pourim qu'on peut décider de l'accepter ou pas, car jusqu'à maintenant, elle nous est imposée, j'allais dire. Tov, alors maintenant qu'on a dit ça, Besseler, je comprends que Moshe et Pourim sont intimement liés, mais ça va bien au-delà. Quelle est la halakha principale de la fête de Pourim? Alors voilà, non, c'est pas le michté. C'est une halakha très importante, et le boire un petit coup, ça passe bien, ça fait du bien, mais c'est pas la halakha principale. Ce n'est pas non plus la lecture de la Megillah. Ce n'est pas non plus les Mishnah Manot et ce n'est pas non plus les Matanot, la Evioni. Alors, il reste quoi? On a fait les quatre. Mais non, il y a la halakha la plus importante. Regardez, dans un mois et demi, même pas, dans un mois et une semaine, ça sera Pessah. Non, je ne sais pas où vous allez faire Pessah. Mais quel que soit l'endroit du monde où vous faites Pessah, ça sera le même jour. On fera tous Pessah à la même date. C'est quand même incroyable que Pourim est la seule fête où tu habites à Jérusalem, c'est le 15, tu n'habites pas à Jérusalem, c'est le 14. Ça n'existe pas. Vous allez me dire, non mais à Pessah, il y a deux jours de Yom Tov pour Koutzaharef. C'est l'air. Mais même le deuxième jour de Pessah, c'est Pessah pour moi en Israël. Même si ce n'est pas Yom Tov, c'est Pessah quand même. Et le Leil HaSeder, il aura lieu le même jour partout dans le monde. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on ne fait pas Pourim le même jour? C'est-à-dire que, Bémet, tu vas à Paris dimanche, c'est Pourim. Mais tu es à Jéru dimanche, Zekloum. Tu vas à Paris lundi, Zekloum. Tu vas à lundi à Jéru, c'est Pourim. C'est complètement incroyable, cette histoire. Et qu'est-ce que c'est que cette halakha du 14 et du 15? Eh bien, cette halakha qui est la halakha principale, parce que sans cette halakha-là, tu ne sais pas qu'en faire Pourim. Donc, il n'y a simplement pas les autres mitzvot. Eh bien, cette halakha-là, elle dépend de quoi? Dans la Megillah, on s'est battu le 13 et on a fini nos ennemis en dehors de Shushan le 13. Le 14, on a continué à se battre à Shushan. Et donc, le 14, on a fait la fête de la fin de la guerre en dehors de Shushan. Et comme on s'est battu encore le 14 à Shushan, alors on a fait la fête de la fin de la guerre, le 15. Et donc, les fêtes de Pourim, c'est le 14 et le 15. Sauf que, ok, je peux entendre que dans l'histoire, le 14, on s'est battu ailleurs et le 15 à Shushan. Sauf que c'est pas du tout ça la halakha. La halakha ne me dit pas, les juifs qui habitent à Shushan, ils font le 15 et les juifs à l'extérieur de Shushan, ils font le 14. Non. On te dit, les juifs qui habitent dans un endroit qui avait des murailles de l'époque de Yehoshua bin Nun, ils font le 15. Imaginez-vous qu'un juif qui habite aujourd'hui à Shushan, il devra faire le 14. Mais pourquoi? Quel rapport les murailles de Yehoshua bin Nun? Nous dit le Rambam, parce que la terre d'Israël était détruite à l'époque de Pourim, n'était pas repeuplée. Et donc, de la même façon que la fête ne s'est pas passée au bon endroit, puisqu'elle s'est passée en Chutz La'aretz, eh bien, elle ne va pas se passer au bon moment. C'est le 14. Ah, mais les endroits qui sont connectés avec la terre d'Israël, c'est-à-dire les endroits qui ont une ville avec une muraille de l'époque de quand on est rentré en Eretz Israël, alors on fera le 15. Et vous le savez, une fête officielle, c'est le 15. Toutes les fêtes juives, c'est le 15. Pas le 14. Mais semble-t-il, à Pourim, il y a cette dualité de tu rentres ou tu rentres pas en Israël. Ben, c'est exactement Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui non plus, n'est pas rentré en Eretz Israël. lui aussi, il a cette dimension de Pourim. Mais ça va au-delà de cela, les amis. Dans le Talmud, c'est quoi avant le Talmud ? Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah, bien sûr. Et la fête de Pourim, c'est l'exil. C'est ce qu'on a expliqué. Durant l'exil, il n'y a qu'une seule chose, qui peut garder l'éternité du peuple juif. L'éternité du peuple juif, Bagalout, c'est Torah. Ben oui, parce que si tu ne fais pas la Torah en exil, ben tu t'assimiles. Donc évidemment que Bagalout, Tsarich Torah. C'est d'ailleurs la dernière indication du dernier des prophètes avant l'exil. Le dernier des prophètes avant l'exil s'appelle Malachi. Malachi, c'est le dernier prophète du Tanakh. Et nous dit Malachi que nos sages vont nous dire dans le Talmud, dans le traité de Megillah, Malachi c'est Mordechai. Ah ah! Donc Mordechai, en tant que Malachi, nous dit dans son dernier enseignement, Zichru Torat Moshe, Avdi, Asher Tziviti al Kol Israël. La dernière phrase de Malachi, c'est rappelez-vous de la Torah de Moshe. Malachi, qui est Mordechai, qui est Pourim. En d'autres termes, la Torah de Moshe prend tout son sens durant la fête de Pourim. Et Moshe est tellement lié à Pourim, eh bien, que le Talmud, dans le traité de Houlin, à la page 139, va nous dire quelque chose de très bizarre. Le Talmud nous demande « Moshe mina Torah minai ». Moshe mina Torah minai ? Genre d'où on voit que Moshe est marqué dans la Torah ? Franchement, comme si on n'avait pas vu dans la Torah, je ne sais pas moi, Vayedaber Hashem el Moshe. Vayomer Hashem el Moshe les morts. C'est quand même un... Vayomer Hashem el Moshe les morts, c'est un verset qui revient 70 fois dans la Torah. Mais la Torah, elle se pose la question, Moshe mina Torah minai. Sauf que ce qui m'intéresse avant de répondre, c'est que dans cette page du Talmud, dans Houlin 139, il y a une série de quatre questions qui sont posées. La première, Moshe mina Torah minayin, Mordechai mina Torah minayin, Esther mina Torah minayin, et Aman mina Torah minayin. D'où on sait que Moshe est marqué dans la Torah? D'où on sait que Mordechai est marqué dans la Torah? D'où on sait que Esther est marquée dans la Torah? Et d'où on sait que Aman est marqué dans la Torah? Vous voyez bien que le Talmud va relier Moshe au personnage de la Megillat Esther. Comme si on ne pouvait pas comprendre Moshe sans Mordechai, Esther et Aman, et comme si on ne pouvait pas comprendre Mordechai, Esther et Aman sans Moshe. Pourquoi cela? Alors venons, on donne les réponses. Moshe, on nous dit, d'où est-ce qu'on sait que Moshe est marqué dans la Torah? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Lo yadon ruchi ba'adam le'olam ki beshagam ubasar ve'yu yamav me'avesrim shana. À l'époque du déluge, où Dieu dit, voilà, les hommes, ils ont fait n'importe quoi, je promets maintenant que je ne donnerai plus mon souffle pendant des centaines d'années, mais l'homme, il vivra 120 ans. Il y a marqué là-bas, beshagam ubasar. Et nous disent nos sages dans le Talmud, Beshagam Gematria Moshe. Donc ça veut dire que Moshe, il est là-bas. Ben oui, on parle du déluge. Le déluge, il s'agit d'un bonhomme qui a été sauvé des eaux dans une teva. Ben c'est Moshe, ça. Ou c'est Noir. Mais c'est Moshe. Donc Moshe, on nous dit, c'est directement lié à la Maïm du Maboul. Mordechai mina Torah minayin. D'où on sait que Mordechai, il est dans la Torah? Ah, Mordechai mina Torah minayin. on va te dire mort d'erreur. Mort d'erreur, Mahama Kavana, ça fait partie des éléments constitutifs du Mishkan, des éléments constitutifs de la Torah qu'on va présenter au peuple juif. Zé Mordechai mina Torah minaïn. Esther mina Torah minaïn. On va nous dire qui anochi Esther astir panai bayomahu. Viendra un jour où je vais cacher ma face, nous dit Dieu. Ça, c'est Esther mina Torah. Et Aman, on va nous dire Amina etz, asher tseviti lo lechol mimeno achalta. Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger? Qui fait référence au Gan Eden. Ça, c'est Aman, Esther, Mordechai, d'après la Torah. Non. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Venez, on comprend autrement. Mordechai, d'après la Torah, c'est, on a dit, ce qui va être présenté au peuple juif. En d'autres termes, c'est une Torah qui est dévoilée. Esther, c'est Aster Astir Panay. C'est une Torah qui est cachée. Aman, c'est la Torah de Amina Etz. C'est-à-dire la Torah qui nous rattache avec Etz Achaim Etz Adat, qui nous rattache donc à l'idéal. Et Moshe Mina Torah Zeme Amaboul. L'eau qui est maïm et la Torah. Mais quelle est la particularité de l'eau? L'eau, c'est l'unité. Une goutte d'eau et une goutte d'eau, ben, ça fait une goutte d'eau. En d'autres termes, on vient nous expliquer dans le Talmud que la Torah de Moshe, elle a quatre dimensions. Elle a une dimension qui est de nous rattacher à Dieu, Gan Eden. Elle a une autre dimension qui est Torah Taniglé, la Torah dévoilée. Une autre dimension qui est Torah Tassod, la Torah cachée, Torah Takabala. Et une autre dimension qui s'appelle l'unité. Eh bien, les amis, tout ça, ces quatre dimensions, Zé Moshe Rabbein. Moshe Rabbeinu, c'est l'unité. On va commencer par l'inverse. Moshe Rabbeinu, c'est l'unité. Ech ani yodea. Comment je sais que Moshe Rabbeinu, c'est l'unité? Eh bien, tout simplement parce que dans la Torah, il y a souvent des tzadikim où Dieu va les appeler deux fois. Avraham, Avraham. Yaakov, Yaakov. Shmuel, Shmuel. Seulement à chaque fois que Dieu appelle le tzaddik deux fois, Avraham, Avraham, Yaakov, Yaakov, Shmuel, Shmuel, eh bien, il y a un passek. Il y a un tiré entre les deux appellations. Pour nous dire qu'il y a une dissonance entre le Shmuel d'en haut et le Shmuel d'en bas. Entre l'Avraham d'en haut et l'Avraham d'en bas. Entre le Yaakov d'en haut et le Yaakov d'en bas. Mais dans la Torah, il y a marqué également Moshe, Moshe. Seulement pour Moshe, il n'y a pas de passek. Pour Moshe, il n'y a pas d'interruption entre le premier et le deuxième Moshe. En d'autres termes, il n'y a pas de dissonance entre l'idéal moshique de là-haut et la concrétisation moshique d'ici. Moshe, c'est l'unité. Moshe, c'est également celui qui va nous permettre de nous attacher à Dieu. Puisque Moshe est celui qui nous transmet la parole de Dieu. Moshe va également nous enseigner la Torah Taniglé. Il va nous enseigner évidemment la Torah dévoilée, toutes les halachot, toute la Torah de Moshe. Mais Moshe, il nous enseigne également la Torah Tassod, la Torah cachée. Quand est-ce que Moshe nous enseigne la Torah cachée, Rabotai? Vous savez quand est-ce que Moshe nous enseigne la Torah cachée? Bien, les amis, Tu disais tout à l'heure, David, qu'il y a une mitzvah particulière durant la fête de Pourim, c'est la fête de boire. Le fait de Chayav inish le besume bepuraya ad de lo yada ben arur amal le baruch mordechai. D'accord ? C'est pashut. Mais cette dimension de ad de lo yada, d'ailleurs, entre parenthèses, Rashi, dans cette phrase du Talmud, Chayav inish le besume bepuraya, nous dit Rashi, Chayavinish le besume beyaïn. Beyaïn avec du vin et pas avec du whisky, de la vodka, tequila et autres rhum. Pourquoi ? Alors, c'est pas que c'est interdit. C'est que les autres alcools ont vocation de te casser la tête. Le vin a vocation de faire sortir le secret. Alors, je ne sais pas si ce que je dis ici est vérifiable. Mais il semblerait que c'est pas la même cuite quand on se prend une cuite au whisky et quand on prend une cuite au vin. C'est pas la même chose, semble-t-il. Quoi qu'il en soit, pour être capable d'arriver à une dimension qui s'appelle Ad Delo Yada. Ad Delo Yada, ce que le Sefer HaZohar appellera Reisha Dela It Yada. Mais Reisha de la Itiada a Rosh Abilti Noda. Ça, c'est assez énorme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire la chose suivante. Il y a un moment donné où tu comprends qu'il y a des choses qui sont connues et il y a des choses qui ne sont pas connues. Il y a des choses qui sont dévoilées et il y a des choses qui sont pas dévoilé. Eh bien, cette dimension de dévoilé et non dévoilé, eh bien, il y a quelqu'un qui l'a déjà atteint. Qui l'a déjà atteint? Eh bien, c'est Moshe Rabbeinu. Quand est-ce que Moshe a atteint cette dimension de dévoilé et non dévoilé? Eh bien, dans la paracha de Kitissa. Dans la paracha de Kitissa, à la toute fin de la paracha, eh bien, on va pouvoir avoir des versets incroyables. Vous savez, c'est le moment où Moshe Rabbeinu descend et nous ramène la Torah, les deuxièmes tables de la loi, et il nous les ramène, ça y est, c'est parti. Et une fois qu'il nous les a ramenés, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez ce qui se passe. Je lis les versets de la fin de la paracha de Kitissa. « Vayi beredet Moshe mehar Sinai ushne luchot ha'edut beyad Moshe » Lorsque Moshe est descendu du Har Sinai, avec les deux tables du témoignage dans la main de Moshe, Berit Tominaha, où Moshe lo yada. Où Moshe lo yada. Moshe est arrivé à Ad de lo yada. Il y a marqué, Moshe ne savait pas. Ikaran or panav bedabero ito. Vous connaissez ce verset qui nous dit, ouais, c'est Moshe, il savait pas que sa face éclairait. Et ça, hein, c'est comme ça que les gens comprennent. Moshe ne savait pas que sa face éclairait. Alors, c'est déjà mieux que la compréhension de Michel-Ange, qui lui a compris que Karan, c'est Keren, c'est une corne, et que donc dans la statue qu'il a fait de Moshe qui est exposée à Rome, eh ben, on peut voir un Moshe Rabbeinu avec des cornes. Bon. Non. Mais ça ne veut pas non plus dire que Moshe ne savait pas que sa face éclairée. Qui ne veut pas forcément dire que. Il ne veut pas forcément dire car. Mais ça peut vouloir dire également ka'acher. Lorsque. Ou Moshe loyada. Quand? Lorsque sa face éclairée. En d'autres termes, Moshe, il avait un moyen de prévenir tout le monde. Quand est-ce qu'il atteint la dimension de Adeloyada? Tout d'un coup, quand sa figure elle devient radioactive, alors ça veut dire qu'il est en train d'atteindre l'Oyada. Waouh! Alors vous imaginez, vous êtes devant, qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur! Donc d'après ce que vous savez, eh bien vous avez l'habitude de dire, bah, Moshe il a mis un voile. Eh bien non, regardez la suite du verset. Vayar Aaron mechol bnei Israël et Moshe, veine karan ol panav, vayireu gum migeshet elav. Tout le monde a vu la face de Moshe qui éclairait. Et ils ont eu peur d'approcher de lui. Vaïkra alem Moshe. Moshe les a appelés, leur a dit, je ne mords pas. Vaïkra alem Moshe. Vayashuvu elav Aaron vechol hanesim vaïda. Vaïdaber Moshe alem. Moshe les a rappelés, leur a dit, asseyez-vous, on va commencer le shiur. Et il leur a parlé avec une panim gelouyot. Il leur a parlé avec un visage découvert. Et il leur a enseigné quoi ? Ben, la Torah découverte. Et ensuite, on dit, Ve'acharechen nikshu kol bnei Yisrael ve'etzavem et kol asher diber Hashem ito be'ar Sinai. Ve'yechal Moshe midaber itav ve'iten al panav masve. Lorsqu'il avait fini d'enseigner au peuple juif la Torah dévoilée, il mettait son masque de Pourim pour enseigner la Torah voilée, la Torah cachée. En d'autres termes, cette dimension de Torah dévoilée et Torah cachée, eh bien, c'est le propre de Pourim. Durant la Megillah, on enseigne la Torah dévoilée. Durant le Mishté, on enseigne la Torah voilée. Et je veux dire mieux que ça. Cette fête s'appelle Yom HaKippourim ou Yom HaPourim. Bah Pourim. Oui, mais il y a une autre fête dans la Torah qui s'appelle Yom HaKippourim. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous dit le Rabbi de Rougine, Yom HaKippourim, c'est comme Pourim. C'est-à-dire que le point de départ le plus important, c'est Pourim. Et à Kippour, ben, on fait Keil ou Pourim. C'est comme Pourim. Yom Kippourim. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Yom Kippour ? Yemé à Pourim, c'est dans la Megillah. Voilà, Yemé à Pourim, c'est dans la Megillah. Mais dans Yom Kippour, ça s'appelle Yom Pakippour dans la Torah. Ça s'appelle Yom à Kippourim. Comme s'il y avait dans la Torah une dimension de journée qui est comme Pourim. Et donc, eh bien, à Yom Kippour, qu'est-ce qui s'est passé ? D'un côté, on a reçu la Torah, puisque c'est le jour où on a reçu l'étape de la loi. Et ensuite, c'est le jour également où le Kohen y rentre dans le Kodesh HaKodashim, où il est masqué. Encore une fois, cette dimension de Torah dévoilée et de Torah voilée. Et c'est tout par l'intermédiaire de Moshe. Vous comprenez que notre fête de Pourim est donc la fête de Moshe Rabbeinu. Parce qu'à Pourim, il y a deux dimensions, qui sont les deux dimensions que Moshe nous a transmises. Dans le livre de Tehilim, on va nous dire, dans le Tehilim, si je ne me trompe pas, 90, on dit que Tefila le Moshe Ish à Elohim. Bah, c'est Ish à Elohim. Moshe, il est appelé Ish à Elohim ? Oui, parce que Moshe est celui qui a réussi par excellence à réunir son côté Ish, son corps, et son côté Elohim, son côté Neshama. Agouf vea Neshama. Chez Moshe, il n'y a aucune séparation entre les deux. Ainsi donc, à Pourim, on va te donner des mitzvot pour le corps et des mitzvot pour la neshama. La mitzvah du Mishté et la mitzvah de la Megillah. Mais en vrai de vrai, ça va plus loin. Parce que Moshe Rabbeinu ne nous a pas seulement enseigné qu'il y a une différence entre le corps et la Neshama, mais il y a une étape intermédiaire entre le corps et la Neshama. Cette étape intermédiaire, elle s'appelle le Sechel. Parce que ce n'est pas directement de ton corps que tu arrives à rentrer en osmose avec ta Neshama. C'est là-dedans que ça se passe, avant de pouvoir être connecté. Il y a corps, esprit et âme. Eh bien, les amis, vous savez que les jours de Pourim, c'est le 14 et le 15. D'accord ? Le 14 et le 15, ça, on a expliqué. Le Talmud, dans le traité de Megillah, va nous expliquer quel est le premier sujet du Talmud de Megillah. c'est de dire que si jamais on ne peut pas faire Pourim le 14 et le 15, alors on pourra faire la Megillah le 13, le 12 et le 11. La Gemara dit, mais d'où t'as appris qu'on pouvait faire la Megillah le 13, le 12 et le 11? Le Talmud dit le 13, j'ai pas besoin d'apprendre particulièrement. Le 13, c'est la journée des combats. Donc évidemment que c'est lié à Pourim. Donc le Talmud dit, pour le 13, j'ai pas de problème. Mais le 12 et le 11, d'où on a vu qu'on pouvait rajouter des jours comme ça? Eh bien, il y a deux rabbins qui s'opposent. L'un dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, dans la Megillah, il y a marqué Kayamim Asher Nachu Bahem Hayehudim. Kayamim comme les Yamim. Donc, de la même façon qu'il y a deux jours de base dans la Megillah, comme ces deux jours-là, tu peux en faire deux autres, le 11 et le 12. L'autre avis du Talmud nous dit non, 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 non. C'est pas en rapport avec le mot Kayamim, c'est en rapport avec le mot Bismaneihem. Qu'il y a marqué qu'il faut faire les jours de Pourim Bismaneihem. Et le Talmud dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué Zmanam? Pourquoi est-ce qu'on a rajouté les lettres Yud-Hei pour faire Zmanei-Hem? Eh bien, ils te disent, c'est de la même façon que tu as rajouté deux lettres, alors tu rajoutes deux jours. Seulement. Les deux lettres rajoutées dans Zmanei-Hem, c'est Yud-Vehei. D'après la Kabbalah, on nous a enseigné que ce nom de Dieu Yud-Hei, c'est Keneged Achochma Veabina. C'est-à-dire, ça se passe là. Kayamim, comme les jours de Pourim, c'est le kaf du dimion, de l'imaginaire, de comme ça, qui se passe dans la Neshama. En d'autres termes, Rabotai, Moshe Rabbeinu nous a enseigné que nous devons connecter notre corps et notre âme par l'intermédiaire de notre sechel, l'esprit. Et Moshe a été capable de le faire. Eh bien, à Pourim, on va te dire, tout est fait pour que tu puisses ressembler à Moshe. Et c'est la raison pour laquelle la fête de Pourim est la fête par excellence où Moshe Rabbeinu aurait été le plus à l'aise, le plus un poisson dans l'eau. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé que sa Brit Mila, que son entrée officielle au sein du peuple juif serait durant les jours de Pourim. Moshe Rabbeinu, comme étant le tzaddik de la fête qui nous rattache au peuple juif, le tzaddik qui n'est pas rentré en Israël, comme étant le tzaddik de la fête qui ne s'est pas passée en Eretz Israël, le tzaddik qui nous a donné la Torah, comme étant le tzaddik de la fête où on a accepté la Torah, le tzaddik, il nous a appris qu'il y a une Torah dévoilée, cachée, comme les deux personnages principaux de la Megillah, qui sont un dévoilé et un caché. Moshe Rabbeinu, Zayin Be'Adar, Tetvav Be'Adar, Moshe Rabbeinu, l'homme de Pourim par excellence. Chazak u'Baruch, et vous pouvez allumer vos micros pour les questions.
Voilà, shalom. Voilà, les micros sont bien allumés. Il y a une première question de Monsieur Messon. Monsieur Messon, vous avez une question. On vous demande d'allumer vos micros seulement si vous avez une question. Toda Rabba. Monsieur Messon, Bechavod.
Oui, merci beaucoup, Kavod Rabba. Kavod Rabba, pour cet enseignement vraiment très enrichissant. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans. Quand vous dites que le « ich », c'est le corps, et que le « Elohim », c'est la Neshama. C'est un enseignement de Rav Yoel qui dit que dans Shemot, là-bas, Tet Vav, Pasuk, Gimel, on a superposé Yudke Valke à « ich ». Que le « ich », ce serait Yudke Valke, ce serait Hashem, ce serait la Neshama. À ce moment, Elohim, qui est la Teva, le gouffre, puisque la Bina ou Malakoutet appelle aussi Elohim, ce serait plutôt le corps, quoi. C'est là où peut-être il y a eu stira pour moi.
D'abord, ça peut être une stira, vous avez raison, mais je ne pense pas que ce soit une stira dans le sens où lorsque on va parler de Ish dans la Torah, simplement Ish, c'est pour effectivement révéler la dimension divine. Mais dans le Tehilim, là-bas, c'est la conjugaison des deux mots qui sont mis à côté, Isha Elohim. Et ça fait justement la référence entre la dualité qu'il y a dans l'homme. Est-ce que vous voulez dire que Elohim, ce serait plus le côté naturel de l'homme et Ish, son côté Ishmati ? Peut-être, mais le Rav Kook disait dans son livre Eder Haïkar que la question n'est pas tellement de savoir si on accepte que Moshe était Elohim, mais la question était de savoir est-ce qu'on accepte que Moshe était Ish.
C'est ça.
Donc en cela, peut-être que ça se retrouve. Mais je n'ai pas de problème en soi de dire que Ish, c'est plus le côté Neshama et Elohim, plus le côté dans la Teva. L'idée, c'est quand même de faire le lien entre les deux. Que Moshe a réussi.
Merci. Merci.
Question de Ariel. Hillel. Ariel, vous avez une question? Bon, attendant, Meïra, je vois que vous avez levé la main.
Oui, bonjour, le Rav. J'ai oublié ce que c'était pour une Batrazot. Je ne me rappelle pas comment on arrive à faire deux jours dans plusieurs endroits.
C'est-à-dire?
Mais il y a des villes où ils fêtent deux jours. Il y a des villes où Purim n'est qu'un jour.
Non, Purim, c'est toujours 15 jours. Purim, c'est toujours 15 jours. La question est de savoir quel jour. Les villes qui sont entourées d'une muraille de l'époque de Joshua bin Nun, c'est le 15. Donc, par exemple, à Jérusalem, à Hebron, à Jéricho, c'est le 15. Les villes qui ne sont pas entourées d'une muraille, qui n'ont pas été entourées d'une muraille, parce qu'il ne faut pas forcément que la muraille existe encore, qui n'étaient pas entourées d'une muraille à l'époque de Joshua bin Nun, c'est le 14. Il y a certains endroits qui sont Bessafek.
Pourquoi ?
Parce qu'on ne sait pas. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, est-ce qu'il y avait la muraille ou est-ce qu'il n'y avait pas la muraille. Donc, dans les endroits où il y a Safek, alors ils font deux jours de Purim mi-Safek. Mais c'est un Safek.
Oui, mais ils font deux jours, ils lisent quatre fois la Megillah.
C'est leur problème. c'est pas un idéal, c'est juste parce qu'on ne sait pas.
Oui, mais si on ne sait pas, alors pourquoi lire ? Alors, c'est des brachot le Vatala.
Alors, il y a beaucoup de rabbins qui disent que dans le cas du Safek, on fait la bracha qu'une seule fois.
Je sais qu'à Lout, par exemple, mes enfants habitent à Lout, ils font ça deux jours, donc quatre fois la Megillah, infini quoi.
Eh bien, c'est malheureux, tant pis pour eux.
C'est la première fois que j'entends ça comme ça. Mais voilà, même à Hebron aussi, ils font deux fois.
Non, à Hebron, ils font le 15.
Alors, où c'est qu'ils font deux jours
À Tzfat, il y a un Safek. Il y a un Safek également dans certains quartiers éloignés de Jérusalem. Est-ce que c'est considéré encore comme Jérusalem ou est-ce que ce n'est pas encore considéré comme Jérusalem ? Il y a tout un débat dans le Talmud. Est-ce que ce qui s'appelle Karov, c'est parce que c'est Karov en kilomètres ou alors que c'est Karov parce qu'on voit ? Bekitsour, c'est un autre concept.
C'est jamais simple chez les Juifs. Hein?
Ben non, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle.
Alors, j'ai une question, Rav.
Oui. Ouais.
J'ai une question.
Oui,
c'est Rav. Est-ce que vous pouvez revenir ? Vous avez associé Aman à une Torah, je ne sais pas laquelle.
Ah, Aman, nous dit le Talmud, d'où est-ce qu'on voit que Aman est marqué dans la Torah ? C'est Amina Etz. Est-ce que c'est de l'arbre que je t'avais dit de ne pas manger ? Tu as mangé. Et donc, j'ai rattaché cela à la capacité de dévoiler Dieu et nous rattacher au Gan Eden. Et vous allez me dire quel rapport avec Aman ? Tu as très bien fait de le rappeler parce que je ne l'ai pas dit. J'ai été trop vite. Eh bien, la réponse est très simple. Akadosh Baruch Hu se dévoile par l'intermédiaire des tzadikim qui nous enseignent la Torah, mais des fois, Akadosh Baruch Hu se dévoile par les xérot de Aman, puisque va nous dire le Talmud Gdola tabat Aman yoter mikol tochechot Yirmiyahu. C'est-à-dire que Jérémie, il parle, les gens ne font pas tchouva. Aman, il fait son décret, tout le monde fait tchouva. Donc Aman aussi fait partie des moyens pour dévoiler Akadosh Baruch Hu.
Bon, Arabe, juste une petite question comme ça. Dans le Mikré, d'un côté, on a Yemé Pourim, et d'un autre côté, on parle de Yom Akipurim.
Oui.
Donc, il y a une rupture quelque part de la symétrie entre les deux. Comment ça se fait?
Ah, pourquoi est-ce que Yom HaKippurim, c'est un seul jour,
okay.
Et Yemé HaPurim?
Bah,
Yemé HaPurim, tu sais, parce que c'est le 14 et le 15.
Ah, okay.
Ça c'est clair. Yemé HaPurim, c'est le 14 et le 15. Yom HaKippurim, c'est un seul jour qui réunit les deux. Pourquoi? Parce que dans le jour de Yom Kippour, il va y avoir une avoda qui est dévoilée et une avoda qui est voilée également.
Ah, Nistar et Niglé.
D'accord.
Il y a une question, deux questions dans le chat.
Oui.
Yoshua Bin Nun appartient à quelle fête?
Yoshua Bin Nun, il appartient à la rentrée en Eretz Israël. La fête du 10 du mois de Nissan, mais en vérité, qui est. Ben pas du 10 du mois de Nissan, je dis n'importe quoi, du Rosh Chodesh Nissan. Et Yoshua Bin Nun, c'est le tzaddik de l'inauguration.
Et question de l'iPad d'Eli Sheva. Donc, si j'ai bien compris, à Shushan, on fait le 14.
Ben, à Shushan, voilà. Shushan, c'est une très bonne, un très bon exemple du Safek. Mais pas du Safek. Est-ce qu'il y avait des murailles de l'époque de Yoshua Bin Nun? Parce qu'on était sûr qu'il n'y en avait pas. Mais comme ça s'est passé à Shushan le 15, mais qu'il n'y a pas de murailles, alors à Shushan, les gens, ils sont en balagan. Bon, d'abord, je ne sais pas s'il y a beaucoup de juifs aujourd'hui à Shushan, mais quoi qu'il en soit, balagan, est-ce que je dois faire le 14, est-ce que je dois faire le 15? Et mais ça fait qu'ils vont faire les deux.
Alors moi, j'ai une question. C'est quoi le rapport entre Pourim et les pauvres?
Non, c'est pas le rapport entre Pourim et les pauvres. C'est justement comme à Pourim, on a dit que c'était la fête où tu choisissais, ça y est, tu pouvais choisir enfin de faire partie du peuple juif ou pas, eh bien, on veut que le peuple juif soit tous réunis. Et donc, le Mishté a vocation de réunir les cœurs parce qu'on mange ensemble, on boit ensemble, donc on est ensemble. La Megillah a vocation de nous rappeler que l'histoire est la même pour tout le monde, qu'on soit pauvre, riche, de gauche, de droite, machin. Quand il y a Hitler qui arrive, il veut tuer tout le monde. Ensuite, les Mishloach Manot, c'est pour se connecter entre copains. Et Matanot Levionim, tu ne peux pas laisser des gens sur le bord de la rue qui n'ont pas de quoi se rattacher à la fête du peuple juif. Donc, tu dois aussi penser à ceux qui n'ont pas les mêmes capacités que toi. Donc, toutes les mitzvot de Pourim, c'est que tout le monde soit dedans.
Génial. Et dernière question de Caroline.
Oui, merci. Bonjour, Rav. C'est au sujet de la date du jeûne d'Esther.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'on a cette date du jeûne d'Esther qui n'a rien à voir en fait avec les dates de Pourim, puisque ce jeûne, il a eu lieu pendant Pessah, en fait?
Ah, voilà une question qui est bonne. Je serais tenté de vous dire de venir ce soir à Givat Shmuel, puisque je vais donner un cours où ça sera l'un des thèmes principaux qui seront abordés. D'ailleurs, j'invite tout le monde, ceux qui veulent, ce soir à Givat Shmuel. Il y a une double conférence, je vais parler moi de Pourim et après moi parlera mon ami David Chawat pour présenter son livre Am Segula. Donc vous êtes tous cordialement invités. Voilà, je ferai passer
et
la
parole.
Je ne peux pas spoiler.
Je vous enverrai l'enregistrement, Caroline.
Ah, super. Voilà, merci beaucoup.
Razak.